allez écouter un podcast enregistré avec les élèves de 3e du collège François Raspail de Carpentras dans le cadre de leur participation au concours national de la résistance et de la déportation.
J'avais votre âge assis sur les bancs de l'école avec tous mes camarades. Nous préparions notre avenir. Pourquoi alors cette bascule dans l'horreur ? L'horreur, je l'ai subie avant qu'elle ne devienne un fait historique. J'ai écrit ces quelques lignes pour que vous sachiez que ça arrivait et que cela peut encore arriver. Que vous sachiez ce que les hommes fanatisés par une idéologie néfaste, le nazisme, ont été capables de faire à d'autres hommes. Que vous sachiez que le racisme, la xénophobie et la haine peuvent produire les mêmes effets. Que vous sachiez que si le bonheur n'est pas possible sans liberté, la liberté n'est pas possible sans courage. L'école face à la guerre et au régime de Vichy.
Je suis Jean, instituteur de Renan en 1940. Je suis en colère, je suis révolté. Monsieur Pétain décrète que la laïcité n'a pas sa place à l'école. Or pour moi, la laïcité doit être apprise à l'école car ça signifie la liberté de penser. Aujourd'hui, 10 juillet 1940, le gouvernement oblige les élèves à glorifier Pétain alors que nous, professeurs, nous ne sommes pas d'accord. Mais si je dis ce que je pense, je risque ma vie.
Je suis Léonce, écolier de 10 ans, élève de Jean. À l'école, une rumeur circule à toute vitesse. Est-elle vraie ou fausse ? Personne ne le sait. Il paraît que les Allemands vont nous envahir et nous mettre dans des camps de travail. Ça semble fou, mais tout le monde a peur. Mon ami Axel n'est plus là depuis plusieurs jours. Il a pris le train. D'autres de mes amis sont partis en charrette, en voiture ou à pied. Mais moi, je n'ai pas assez d'argent, donc je suis restée là. Tout le monde fuit, j'ai peur.
Je suis Lucie, écolière de 11 ans. Nous sommes le 29 juillet 1943. Tous les élèves de France admirent Pétain. Tous veulent lui envoyer des lettres. Tous écrivent sa phrase sur la page de garde de leur cahier. À tous les élèves de France, soyez un bon exemple et gardez-en de bonnes résolutions, et ça aussi longtemps qu'il le faudra. Tous veulent lui montrer leur ville, leur village, leur maison. Tous veulent rencontrer Pétain. Mais moi, je ne l'aimais pas. Je me sentais seule car ils voulaient tous lui ressembler et faire comme lui.
L'école fait la résistance.
Je suis Moïse, j'ai 16 ans, je suis lycéen au lycée Henri Fabre, nous sommes en 1942, je suis juif. Je me souviens, à la rentrée de 1940, certains de mes copains ont été séparés de moi. Ils sont restés dans l'école où on était avant. Moi, j'ai été envoyé dans un bâtiment de fortune, où les salles et les chaises sont toutes bancales, l'éclairage ne marche qu'une fois par semaine, et le chauffage ne marche pas tout le temps. Chaque semaine, un nouveau professeur vient. Il remplace l'ancien professeur envoyé en prison.
Je suis Laure, j'ai 20 ans et j'étudie à l'université d'Avignon. Les études supérieures sont très difficiles et la pression encore plus forte pour certains. Je pense à Pierre Brossolette. Je l'ai bien connu. Il était mon professeur. Il s'est suicidé en se jetant d'une fenêtre du siège de la Gestapo à Paris le 22 mars 1944 pour ne pas dénoncer ses compagnons. Je suis triste et en colère à la fois.
Je suis Lucien, étudiant à l'université d'Aix-en-Provence. Je refuse d'aller au service du travail obligatoire. Je refuse d'obéir à la loi du gouvernement de Vichy. Je ne veux pas être un travailleur donné au Reich pour aller répondre à ses besoins ingrats en esclaves. Je ne veux pas vider les usines pour eux, mais je veux nourrir le maquis.
Je suis Jeanne, institutrice à l'école de la Croisière à Avignon. Je refuse de mettre en place les politiques de Vichy qui vont contre l'école républicaine et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je refuse que l'ordre, l'autorité et la hiérarchie guident désormais l'institution scolaire. Je refuse d'enseigner la peur de l'autre et la haine.
Je suis Pierre-Louis, professeur d'université. Nous sommes à Avignon en 1944. J'ai eu l'occasion de lire le journal clandestin « L'Université libre ». Je suis obligé d'enseigner à mes élèves des choses qui me répugnent, des choses que je ne veux pas forcément enseigner. Je me souviens de ces vers de Desnos, des mots qui m'ont porté et motivé. Ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'opprobre leur imposera. Nous sommes tous unis pour la liberté.
Je suis Jean-Marc, j'ai 50 ans, je suis professeur à l'université de Malherbe de Caen. En 1942, un de mes élèves, Luc, s'est engagé dans la résistance dans le groupe Kléber des francs-tireurs et partisans. Début 1943, avec deux de ses camarades du lycée, Pierre Briand et Jean Lunois, ils avaient décidé d'intimider un enseignant du lycée, Adolphe Villain, un collaborateur notoire, c'est-à-dire partisan d'Hitler. Jean a tiré avec un revolver en direction d'une fenêtre chez Adolphe Villain sans blesser quiconque. Puis les trois garçons ont pris la fuite. Le lendemain, Jean Lunois décide de revenir sur les lieux où la police enquêtait. Dès qu'il arrive sur place, la police l'interpelle, mais pris de panique, il fuit. À la fin, les trois garçons se sont rendus pour protéger leurs proches car ils ont reçu des menaces. Ils ont été enfermés en maison d'arrêt. Quelle tristesse.
L'école face aux répressions, aux persécutions, aux arrestations.
Je suis Maëla, une écolière juive de 8 ans. Nous sommes en 1942. Cher journal, je m'appelle Maëla et j'ai 8 ans. Je suis juive. Je suis une écolière qui, malgré mon jeune âge, vit une situation d'angoisse et de panique constante. Nous, les enfants juifs, sommes vus comme des terroristes par les soldats allemands, juste parce que nous avons une religion différente. Nous devons porter une étoile jaune à 6 branches, brodée sur nos habits, pour nous reconnaître facilement. Souvent, je surprenais les SS qui emportaient des jeunes écoliers comme moi. Ils étaient ensuite transportés dans des trains vers une destination inconnue. J'ai l'impression qu'ils sont transportés vers la mort, car je n'ai plus de nouvelles d'eux après qu'ils ont passé le seuil de la porte de ce maudit train.
Je suis Claudette, une écolière non-juive de 9 ans. Nous sommes en 1943. Que ressens-tu quand des enfants comme toi sortent de l'école avec des soldats allemands ? Me demande un monsieur curieux sans gêne. Certains des déportés sont mes amis. Les Allemands arrivent pendant nos cours et emportent seulement les personnes avec une étoile jaune sur leurs habits. Mes amis partent de plus en plus, je ne comprends pas pourquoi ils doivent partir. Quand ils partent, la tristesse est le plus grand sentiment que je ressens.
Je suis Paul, instituteur, nous sommes en 1944. Nous sommes arrêtés, sans fin, de plus en plus, mes camarades instituteurs sont arrêtés, par centaines, par des nazis ou les traîtres de Vichy. Plusieurs instituteurs sortent de prison, mais pour la majorité, leur tombe est creusée à l'intérieur. Nous voulons défendre les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité du 9 décembre 1905, qui nous a permis de vivre en paix entre instituteurs et élèves. Nous sommes et nous resterons des résistants.
Je suis Pierre, un prêtre de Carpentras. Nous sommes en 1944. Je suis un prêtre et j'ai caché des enfants juifs pour qu'ils puissent vivre comme les autres enfants du village. Je suis le directeur d'une école catholique et je sais qu'ils ne font pas partie de ma religion, mais ils méritent de vivre. Pourquoi devraient-ils mourir alors qu'ils croient différemment ? Et j'ai appris que les enfants cachés par le père Jacques ont été arrêtés par le Gestapo en janvier de cette année. Ces enfants ne sont pas la cause de cette guerre et ils ne doivent pas payer le prix d'une bataille qu'ils n'ont pas causée.
Je suis Hubert, lycéen à Paris en 1942. Le 31 mai 1942, 5 lycéens du lycée Buffon, mon lycée, se sont fait arrêter car ils avaient participé avec plusieurs centaines d'étudiants à la commémoration interdite de l'anniversaire de la défaite allemande de 1918.
Je suis Pierre, instituteur à l'école de Saint-Joseph en 1943. Les instituteurs se battaient jour après jour pour faire face à l'oppresseur nazi. Ils sont fatigués car cette lutte est longue, pénible et douloureuse. Certains sont morts fusillés comme Elisabeth Leport. D'autres sont tombés malades à force d'accomplir leurs tâches. D'autres encore ont été enfermés, torturés, déportés et exilés, loin de tout ce qui leur est cher.
Je suis Françoise, professeure à l'école de Voiron. Nous sommes le 26 avril 1944. Alors que nous travaillons dans la salle de classe, alors que nous étions en train d'étudier, plusieurs Allemands ont surgi et ont emmené de force quelques élèves de l'école, dont un de mes élèves, Paul Berman. Nous, professeurs, nous ne les avons plus revus après leur arrestation.
Je suis Jules, élève de l'école de Voiron et camarade de Paul Berman. Le 26 avril 1944, j'ai été emmené moi aussi, de même que mon ami Paul. Les soldats étaient tous équipés d'une mitraillette, chargée et pointée vers nous, mais c'était seulement pour nous intimider. En juin 1944, nous sommes allés à la prison Saint-Paul à Lyon. Nous étions terrifiés, les murs étaient recouverts d'écritures d'anciens prisonniers. Je me souviens de l'épisode de la punition. Lors d'un contrôle, un SS demande à Paul de chercher un ouvrier allemand. Paul arrête son travail et cherche l'ouvrier, mais il est introuvable. Pendant l'appel de la cantine, j'entends le nom Bermond, mais je vois qu'il est au garde à vous, dehors, sous moins 15 degrés. Je comprends alors qu'il ne l'a pas trouvé et qu'il ne mangera pas maintenant. Avec mes camarades, nous décidons de garder notre pain pour Paul, discrètement. Il revient à la cellule, fatigué et affamé. Je viens le voir et nous lui donnons les 3 morceaux de pain. Injustice, colère, désarroi.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leur leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.
L'école raconte la libération et se reconstruit.
Je suis Jean, instituteur à l'école Champfleury en 1945. Instituteur dans une école rurale, je me suis engagé aux côtés de Lucie Aubrac, une jeune professeure d'histoire qui m'a tout appris. Lucie Aubrac est une figure de la résistance, qui observe et écrit tout le temps. Je suis certain qu'elle écrira une analyse sur cet engagement collectif après ce conflit.
Je suis Aurélia, écolière en 1945. J'ai participé avec mes camarades à la libération de notre ville. Nous avons crié notre colère dans toute la ville. Nous avons voulu garder une preuve de tout cela, donc nous avons rédigé puis imprimé un journal qui se nomme « Le maquis sort du bois ». Nous avons fait des dessins d'avions américains.
Je m'appelle Luce Etnaud, j'ai 12 ans, nous sommes fin 1945. J'avais 6 ans quand la guerre a commencé en 1939 et je me souviens très peu du début. Mes plus gros souvenirs remontent à l'année 1943. Le 27 novembre 1943, mon père, qui était le maire de la commune, a été enlevé chez nous par les soldats allemands. On l'accusait de ne jamais avoir dénoncé les maquisards. Au début, il donnait des nouvelles par courrier. Nous savons ainsi qu'après son enlèvement, il a passé une semaine dans un camp près de Lyon, puis il a été transféré en Allemagne à la frontière tchécoslovaque. Puis il n'a plus donné de nouvelles. En avril 1945, nous avons reçu un courrier disant qu'il était décédé vers le 1er mars 1945 à Fussenburg. Mais son corps n'a jamais été localisé ni retrouvé. On ne sait pas de quoi il est mort, ni quelle a été sa vie quand il a cessé de donner de nouvelles.
Je suis Jules, écolier en 1945. Je pense que c'est apaisant de retrouver cette vie à l'école comme avant ou presque. Ou mieux, car je peux repartir, apprendre et me cultiver. Pendant la guerre, les récréations étaient de 5-10 minutes. Maintenant, elles sont de 10-15 minutes. Pendant la guerre, le repas était toujours froid. Maintenant, tout est chauffé. Pendant la guerre, on devait faire un détour pour aller à l'école pour éviter les bombardements. Maintenant, il existe des transports pour aller à l'école.
Je suis Michel, institutrice en 1945. C'est agréable de voir ces jeunes enfants heureux de retourner à l'école. Cette reconstruction donne de l'espoir à chacun de ces enfants et redonne vie à l'école. Que chaque élève, écolier, lycéen, étudiant ait un avenir paisible et agréable.
Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom.
Et par le pouvoir des mots, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer...
Liberté.
Prendre les armes pour défendre une cause, mais quelles armes ?
Nous sommes Kevin, Imen, Aïtem et Sylvana. Nous avons 15 ans. Nous sommes élèves en 3e au collège François Raspail de Carpentras. Nous sommes en mars 2023.
Pour défendre une cause, doit-on toujours prendre les armes ? Non, ce que nous pensons, nous les collégiens, c'est que nous pouvons utiliser la force de la voix qui nous permet d'exprimer nos sentiments ainsi que de convaincre les personnes qui ne pensent pas pareil que nous, qui ne pensent pas aux autres.
Les armes créent des tombes et des cercueils qui sont quant à eux remplis, tandis que les cœurs des personnes qui restent sont vides et remplis d'effroi. Pourquoi devons-nous utiliser la force de tout un peuple pour créer la souffrance d'un autre ? Pourquoi devons-nous utiliser ces armes mortelles alors que nous avons une arme plus forte qui est la voix ? La parole est une arme et doit être utilisée.
Pour défendre une cause, doit-on toujours prendre les armes ? Oui. Pourquoi ? Car nous ne pouvons pas nous laisser faire par les chefs d'État, qui veulent seulement nous prendre pour leurs marionnettes de combat. Nous devons prendre les armes pour résister à toutes les choses horribles. Parfois nous n'avons pas le choix pour être libres.
Dans le discours final de son film « Le Dictateur », sorti en 1940, Chaplin dit « Ne désespérez pas, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. »
Ainsi s'achève ce podcast. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Si cela vous a intéressé, vous pouvez lire l'intégralité de notre travail en allant sur le site du collège. C'était la classe de 3e 6 du collège François Raspail de Carpentras.